Bonsoir. La CENCO demande au chef de l'État de s'impliquer dans l'application des mesures de décrispation politique en ce qui concerne les dossiers des personnalités jugées emblématiques par les parties prenantes aux négociations du centre interdiocésain. De leur côté, les ONG de défense des droits de l'homme exigent la réouverture des médias fermés. Quelle analyse faire de l'application des mesures de décrispation politique depuis la signature de l'accord du 31 décembre 2016 ? C'est la question du débat de ce soir et nous en parlons avec Crispin Ngoyi, il est député national de la majorité présidentielle et secrétaire général en charge de la politique du parti RIDEC. Il est aussi communicateur de cette famille politique. Bonsoir, honorable Crispin Ngoyi.
Bonsoir.
Albert Fabrice Puella, député national de l'opposition et leader du parti pour la Renaissance du Congo, RECO en sigle, et membre du Rassemblement. Bonsoir, honorable Albert Fabrice Puella.
Bonsoir.
Et maître Achille Kabongo, il est président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique, dénommé Institut professeur Philippe Bioya. Bonsoir, maître Achille Kabongo.
Bonsoir, Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'épiscopat catholique en RDC demande à Joseph Kabila de laisser Moïse Katumbi rentrer au pays. Il recommande aussi la libération de maître Jean-Claude Muyambo. Ceci ressort du rapport émis par les évêques membres de la CENCO au chef de l'État et à l'opposant en exil au terme de leur enquête sur le dossier des personnalités jugées emblématiques par les parties prenantes aux négociations directes du centre interdiocésain. L'information est contenue dans une dépêche de l'AFP qui a eu accès à ces documents. Contacté par Radio Capi à propos de ces rapports, la CENCO affirme qu'elle n'avait remis les 10 rapports qu'à deux personnes, le chef de l'État et l'ancien gouverneur du Katanga. Comment les rapports se retrouvent dans les médias, la CENCO dit se poser la même question. Le détail avec Jeff Ngoyi.
Pour les prélats, la condamnation de l'opposant politique Moïse Katumbi est une mascarade. Selon leur rapport transmis au chef de l'État et à Moïse le 29 mars dernier et dont le secrétaire général de la CENCO s'est dit surpris de le voir sous la place publique, la conférence épiscopale nationale tient à la levée de la décision d'arrestation de l'opposant, candidat déclaré à l'élection présidentielle afin qu'il revienne jouir de ses droits civils et politiques au pays. Ce rapport est le reflet de la mission des bons offices menée par les évêques. Au cours de cette mission, les parties prenantes aux négociations de la CENCO avaient adopté un train de mesures de décrispation politique. Elles avaient confié au prélat la mission de traiter spécialement le dossier des figures qualifiées d'emblématiques qui nécessitaient une résolution urgente, notamment Moïse Katumbi, Jean-Claude Muyambo et Diomi Ndongala. Le président de SCOD Muyambo a été condamné à 5 ans de prison dans une affaire d'abus de confiance sur un immeuble querellé simultanément dans le dossier Katumbi à Lubumbashi. Les deux procès ne sont que des mascarades, écrivent les évêques.
Merci Jeff Ngoyi. À marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, exige pour sa part la réouverture des médias fermés. Selon son coordonnateur, maître Georges Kapiamba, la réouverture des médias de Lubumbashi, de Kinshasa et le rétablissement du signal de RFI font partie des mesures de décrispation politique telles que décidées par les négociateurs de l'accord du 31 décembre 2016. On écoute maître Georges Kapiamba au téléphone de Berry Franklin Luchaka.
Les mesures de réouverture des médias fermés font partie des mesures de décrispation que les parties prenantes ont convenues, consignées à l'accord du 31 décembre 2016. Et parmi les chaînes qui sont arbitrairement fermées à ce jour, nous avons par exemple à Lubumbashi, 5 médias. Nous avons Nyota Radio et Télévision, Mapenda nos télévisions, des médias proches de l'opposant Moïse Katumbi. Nous avons Radio et Télévision d'Oua du bâtonnier Jean-Claude Muyambo. Nous avons La Voix du Katanga, Roche de Gabriel Kungwa Kumwaza. À Kinshasa, nous avons la RLL TV de Roger Lumbala, sans oublier le journal CNews du journaliste Mike Mukebay. Nous avons aussi évoqué le signal de la RFI qui est interrompu pour Kinshasa. Ça fait plus de 4 mois de manière arbitraire et nous avons demandé à ce que ce signal soit rétabli pour permettre à tout le monde d'y accéder et surtout à l'opposition, à la société civile qui sont généralement acceptés pour s'exprimer à travers ces médias, parce que jusqu'à ce jour, les médias publics leur sont fermés hermétiquement par le pouvoir. Ces mesures de décrispation devaient être appliquées à partir du 31 décembre 2016, date de la signature par toutes les parties prenantes. Et donc, le gouvernement qui est en place a l'obligation de les appliquer.
Crispin Ngoyi, député national de la majorité présidentielle et secrétaire général en charge de la politique du parti RUDEC. Vous êtes aussi communicateur de cette majorité présidentielle. La commission épiscopale ad hoc sur la décrispation politique en RDC-CDP en sigle demande au chef de l'État, Joseph Kabila, de laisser Moïse Katumbi rentrer au pays et recommande aussi la libération de maître Jean-Claude Muyambo. Comment vous réagissez à la requête de cette commission ad hoc?
Merci beaucoup, Guimaté. Mais il y a les choses qu'on ne comprend plus. Les choses que la population congolaise ne comprend plus.
Quelles sont ces choses?
Ces choses, c'est le fait que l'épiscopat catholique, je ne sais pas quel est le rôle qu'il est en train de jouer dans le gouvernement congolais. La CENCO a une mission simple et claire. C'est la mission de rapprocher le rassemblement vers la table de négociation, afin d'atteindre ce qu'on appelait l'inclusivité. Ils ont terminé la mission, ils ont déposé le rapport. Leur mission s'est limitée là. Je ne sais pas s'ils sont en train de forcer à occuper le poste de CENSA, c'est-à-dire le Comité national de suivi de l'accord. Or, ils ne sont pas concernés. On se pose mille et une questions. Quelle est la qualité qui les amène à venir suivre l'accord?
Oui, vous évoquez le rôle des médiations qu'a joué la CENCO.
La CENCO,
mais
oui.
Vous n'allez pas oublier qu'il y a une commission ad hoc qui avait été mise en place, n'est-ce pas, pour traiter de tous les dossiers de toutes ces personnes, ces personnalités qualifiées, des personnalités emblématiques.
J'arrive. Je suis d'abord en train de me poser la question sur la qualité de ceux qui demandent. La deuxième des choses, si nous entrons en profondeur, parlons de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a jamais été chassé du pays. Moïse Katumbi avait demandé l'autorisation d'aller se faire soigner. Et il est allé se faire soigner en dehors du pays. Personne ne l'avait chassé du pays. Il est allé se faire soigner. Alors, en se faisant soigner, s'il a senti qu'il est maintenant guéri, qu'il est en bonne santé, il ne peut que rentrer au pays. Mais ayant des problèmes judiciaires, ça c'est une affaire tout à fait privée. C'est tout à fait privé. Personne n'a interdit à Moïse Katumbi de foutre ses pieds dans le pays. Il n'a jamais été chassé du pays. Il est allé se faire soigner, tout le monde est au courant qu'il est parti puisqu'il était malade. Il est allé se faire soigner. Quand il a terminé de se faire soigner, il n'a qu'à rentrer dans son pays et où il vivra à l'aise. Il n'y a personne qui a des problèmes avec lui. Mais seulement que la justice, s'il a des problèmes avec la justice devra faire aussi son travail.
Vous savez très bien, monsieur Crispin Ngoyi, qu'il y a une condamnation contre monsieur Moïse, oui. Et que s'il remet ses pieds au Congo, il est tout de suite arrêté, vous le savez.
Non, mais vous êtes au courant même que cette fameuse condamnation a eu lieu avant qu'il ne voyage. Avant qu'il ne voyage, il était déjà condamné ici au Congo.
Mais il a dit que la condamnation est tombée après son voyage.
Non, la condamnation n'est pas tombée après son voyage.
Par rapport au cas Moïse Katumbi, oui. Par rapport au sujet, n'est-ce pas, du litige immobilier, se fondant sur ce qu'elle appelle des incohérences contenues dans la chronologie des faits imputés à l'ancien gouverneur du Katanga, notamment la date de signature de l'acte de vente intervenue en 1998, alors que Moïse Katumbi était en exil depuis 1997, et aussi les affirmations du conservateur des titres immobiliers selon lequel les vendeurs et l'acheteur ont comparu devant lui en avril 2002 à Lubumbashi, alors que c'est en 2003 que Moïse Katumbi était rentré en RDC. Alors, se basant sur ces incohérences, la commission ad hoc conclut que le procès collé à Moïse Katumbi est plutôt un règlement des comptes purement politique.
Et ça m'étonnerait que ce soit l'Église catholique qui devient analyste judiciaire dans le pays, ça m'étonne quand même. Mais je crois que partout au monde, la justice est indépendante. Dans notre pays, la justice est indépendante. Personne ne peut s'ingérer dans la justice. Si l'Église catholique veut se faire une Église qui doit aller juger les dossiers judiciaires, il n'a qu'à s'autoproclamer dans ce sens. Ça m'étonnerait que l'Église catholique puisse abandonner la Bible, qui du reste, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays en matière d'éducation ou d'évangélisation, et il va aller s'occuper de la justice.
Mais non, il faut se rappeler, honorable Crispin, que c'est une mission qui a été accordée à la CENCO, n'est-ce pas, hein, la commission qui a été mise sur pied, la commission ad hoc, est pilotée par la CENCO et devait déposer son rapport, n'est-ce pas?
Il n'a qu'à descendre là où on a fait le jugement, faire son travail si la CENCO est compétente. Il n'appartient pas au chef de l'État, de son État, président de la République, pour aller instruire la justice. Chez nous, dans notre pays, il y a la séparation du pouvoir.
Honorable
On
Christophe,
ne peut pas s'ingérer dans l'histoire de la justice.
Oui, et pourquoi, à votre avis, Maître Muyambo est condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme au moment où, justement, le pays se trouve dans un processus de crispation politique? Vous ne pensez pas que ce soit une contradiction?
Il n'y a pas d'avis guimaté. Ça veut dire quoi? Nous cherchons tous un état de droit. Il ne faut pas que vous, guimatez, vous puissiez inciter les gens à aller confisquer le bien des pauvres, le bien des citoyens qui ne sont pas forts, puisqu'ils ont des positions quelconques.
Là, vous faites allusion à qui?
J'ai fait allusion au dossier que vous parlez. Et que les gens puissent commencer à confisquer les choses, c'est l'anarchie. Et on ne peut pas accepter dans un pays. Voilà pourquoi, guimaté, je me dis, le jour que l'opposition peut prendre le pouvoir dans ce pays, c'est le chaos. C'est le chaos qui va intervenir. Pourquoi? Puisqu'ils vont commencer eux-mêmes par confisquer le bien de leurs concitoyens, puisqu'ils savent qu'ils sont intouchables et qu'ils ne peuvent pas aller en prison. Mais pour celui-là, s'il a confisqué le bien d'autrui, la justice doit faire son travail et il doit appurer la peine.
Honorable Crispin Ngoyi, 5 mois après la signature de l'accord du 31 décembre, quel bilan vous faites de l'application des mesures d'application contenues dans cet accord?
Je crois que la mesure d'application est là. Le gouvernement, le Premier ministre a été déjà nommé. Vous êtes au courant. Et qui s'appelle encore M. Tshibala.
Bruno
Tshibala. Il a été déjà nommé. C'est déjà un grand pas. Les arrangements particuliers ont été signés. C'est déjà un deuxième pas. Le gouvernement est en train d'être formé. C'est déjà un pas. Donc, les accords sont en train d'être mis en application sans jambage.
Et pourquoi certains opposants sont libérés et d'autres non? Certains opposants peuvent avoir l'autorisation de rentrer au pays, d'autres non. Pourquoi, à votre avis?
C'est tout simplement la justice qui fait son travail. Donc on a confié à la justice d'analyser dossier par dossier. Quand la justice estime que la faute commise par tel monsieur ou autre peut être jugé non favorable ou favorable, c'est dans ce sens que certains sortent, les autres ne sortent pas.
Merci.
Imaginez-vous par exemple que quelqu'un qui vient vous guimater, il vient puisque je suis gouverneur, puisque je suis premier ministre, puisque je suis député national, il va vous confisquer votre maison et vous allez dire non, laissons ce monsieur faire ce travail.
Merci, honorable.
Puisque nous sommes dans un pays d'anarchie.
Merci,
et
honorable.
Ça, on ne tolérera jamais.
Merci Albert Fabrice Puella, député national de l'opposition et leader du parti pour la Renaissance du Congo, RECO en sigle, et membre du Rassemblement. Comment vous comprenez la démarche de la CENCO à travers cette commission ad hoc?
Merci beaucoup. Premièrement, je voudrais recadrer les choses. Contrairement à ce que dit mon co-débatteur, nous devons avoir beaucoup de respect pour les princes de l'Église, les membres de la commission épiscopale nationale du Congo. Ce ne sont pas des enfants. Ils s'attellent toujours à leurs tâches de former l'homme dans son ensemble. En tout cas, je mettrai mon doigt à couper si mon co-débatteur en face de moi n'a pas eu à étudier dans une école catholique ou dans une université catholique ou qu'aucun prêtre ne lui a donné cours. Mais soyons sérieux, soyons polis.
Comment vous comprenez
alors,
la démarche de la CENCO?
Excusez-moi, je viens. Non, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Mais les évêques étaient dans leurs églises. Qui a fait appel à eux? N'est-ce pas, M. Kabila? Il a bien dit, leur rôle c'était quoi? De ramener les membres du rassemblement pour un besoin d'inclusivité. Mais alors, ils ont amené les membres du rassemblement pour qu'il y ait justement cette inclusivité. L'accord avait été signé. Donc ce sont des chiens de chasse. Vous obtenez votre gibet et vous les chassez parce qu'ils ne servent plus à rien. Mais non, soyons sérieux, nous sommes des responsables. Un peu de respect pour les évêques. Mais moi, là où je ne suis pas du tout d'accord, justement, avec tous les respects que je dois aux princes de l'Église, aux membres de la CENCO, justement, c'est qu'ils ne devraient pas seulement demander l'application ou l'application totale des mesures de crispation en ce qui concerne les figures emblématiques. J'attendais de la CENCO plutôt l'exigence de l'application de l'accord du 31 décembre dans son ensemble. Parce que contrairement à ce qui a été dit, cet accord n'est pas encore appliqué. Cet accord est tripatouillé. Avec l'application de cet accord, c'est comme une conséquence. On aura l'application des mesures de décrispation. Mesures de décrispation qui ne concernent pas seulement
des personnalités emblématiques,
mais il y a aussi des cas comme notre compatriote Franck Diongo, dont les cas avaient été cités aussi parmi les cas de décrispation. Il y a aussi les 420, si je ne m'abuse justement, 420 de nos compatriotes qui ont été arrêtés, dont 12 membres de l'opposition et qui sont en train de souffrir au niveau de la prison de Muzenze là-bas à Goma. 12 personnes, dont une femme enceinte arrêtée depuis le 19 décembre. Il faut manquer de cœur pour faire souffrir des compatriotes.
Il y a des personnes comme Bagayamoukwe qui coupissent la prison de Nolo depuis plusieurs années.
Oui, un député provincial aussi du Nord Kivu. Et que dire aussi de nos compatriotes du Katanga qui sont très nombreux en train de croupir en prison, et ceux qui avaient été arrêtés dans la fameuse affaire de mercenaires. Tout cela sans jugement, sans avoir jamais été en prison. Donc tout cela pour nous, nous estimons que les évêques auraient dû exiger de M. Kabila l'application de la lettre et de l'esprit de l'accord, parce que ce n'est pas encore fait.
Est-ce qu'ils ne l'ont pas encore fait? Est-ce qu'ils n'ont pas encore demandé au chef de l'État d'appliquer dans sa globalité l'accord du 31 décembre? Est-ce que les évêques n'ont pas encore fait?
Les évêques, nous avons suivi, ils ont levé le ton en estimant que la nomination de M. Raymond Tshibala était vraiment en dehors de l'accord du 31 décembre, ce qui est déjà bon. Et pour ça, ils devraient inviter le chef de l'État à appliquer l'accord, parce qu'aujourd'hui, M. Kabila est illégitime. Ce qui justifie sa présence à la tête de l'État, justement, c'est cet accord. Et moi et mon co-débatteur en face de moi, pour qui j'ai beaucoup de respect, il est député national, nous sommes au Palais du Peuple parce qu'il y a cet accord qui nous légitime encore, qui permet, bien sûr, qu'il y a la Constitution, qui prévoit que nous pourrons être remplacés que par d'autres élus. Mais nous estimons que nous devons nous battre, nous tous, comme d'ailleurs la communauté internationale à travers la résolution du Conseil de sécurité. Donc l'accord dans son ensemble doit être appliqué. Et non tripatouiller certaines dispositions comme les deux dont on a parlé justement.
Il appartient uniquement à la justice de traiter les dossiers judiciaires. En lieu et place du chef de l'État, la CENCO n'aurait pas plutôt saisi, n'est-ce pas, la justice, et surtout lorsque elle déclare avoir décelé certaines incohérences dans les dossiers de M. Moïse Katumbi.
C'est là encore que nous appelons à un esprit, à l'élévation de notre esprit. La justice, c'est vrai. Nous savons que la politique tient le droit en état. Je suis avocat, moi, qui vous parle. J'aurai bientôt 20 ans de carrière en tant qu'avocat. La politique tient généralement le droit en état. Quelques crimes que vous puissiez connaître, pourquoi la mesure de grâce existe? Pourquoi la mesure d'amnistie existe? Vous êtes condamné, mais pour les besoins de la paix civile, de la paix sociale, de la tranquillité, vous pouvez être gracié, vous pouvez être amnistié. Lorsque il y a des faits, et c'est là que j'ai été sidéré en suivant ici que non, la justice, on a estimé qu'il y a certains qui ont commis des faits bénins, c'est pourquoi ils sont rentrés. Donc pour quelqu'un, je prends un cas, j'ai beaucoup de respect pour certains compatriotes, mais d'autres qui sont allés embrasser des rebelles qui complotaient contre la République, ceux-là sont des saints. Mais pour un conflit monté de toutes pièces sur un immeuble, un conflit privé, on trouve que c'est vraiment, au fait, c'est Anne qui a commis les crimes les plus odieux qui puissent exister pour que son cas soit pendable et que le monsieur croupisse en prison. Soyons sérieux, la justice aussi élève une nation.
Honorable, il y a aussi ces cas des médias fermés. Hein. Ça fait 5 mois depuis que l'accord a été signé, mais ces médias ne sont toujours pas réouverts. Comment vous jugez cela?
Et c'est là que nous saluons l'intervention de monsieur Georges Kapiamba avec son ONG La Cage. Ce n'est pas normal, parce que parmi les mesures de décrispation, il y a la réouverture justement des médias fermés. Nous le connaissons, il a eu à les citer, mais il y a aussi la Radio France Internationale. C'est important, nous ne pouvons pas avoir une démocratie en misélant la presse. Ce n'est pas sérieux. Nous devons... Et non seulement cela, mais il avait été aussi décidé la réouverture ou même la mise sur pied des facilités pour l'accès de tous les citoyens aux médias publics, aux médias officiels. C'est là s'entend la RTNC, l'ACP et tous les autres, y compris, il n'y a pas que ce que vous avez cité, mais il y a aussi CNews qui ne peut plus paraître. Mais il y a aussi la cessation de Mike Mukebaye, la cessation des tracasseries judiciaires et fiscales, le cas de Faden House qui est toujours fermé jusqu'à aujourd'hui.
Merci Maître Achille Kabongo, président de l'Institut Congolais d'études et d'analyse stratégique, dénommé Institut Professeur Philippe Bioya. Votre analyse au sujet du rapport de la commission ad hoc qui relève des incohérences dans les dossiers de certaines personnalités dites emblématiques.
Guy Maté, merci beaucoup. J'interviens après mes deux co-débatteurs, mais j'aimerais ici, en tant que président de l'Institut Congolais d'études et d'analyse stratégique, recadrer les choses, montrer la façon et montrer le chemin. Vous avez parlé de la décrispation politique. Guy Maté, quand on parle du concept de crispation politique, mise en œuvre des mesures de décrispation politique, il ne faudrait pas ici restreindre le champ de la décrispation politique à la libération de quelques deux ou trois opposants. Oka Moïse Katumbi, Jean-Claude Muyabo ou bien Diomi Dongala. La décrispation politique ici signifie ceci. C'est se conformer totalement, complètement, entièrement et sans aucune faille à l'intégralité des mesures contenues dans la résolution 2348 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ici, même la façon dont l'épiscopat est en train de s'y prendre, l'épiscopat est en train, en quelque sorte, de se dérouter. Nous voulons demander à la SENCO de rentrer sur les rails. La façon dont ils s'y prennent, c'est comme s'ils restreignent ce qu'on appelle la décrispation politique. La mesure de décrispation politique, c'est quoi, Guy Maté? C'est la protection de toutes les populations civiles contre les crimes de guerre et contre les crimes contre l'humanité. C'est la mise en œuvre rapide, sans faille, avec promptitude, de l'accord du 31 décembre 2016. Le député Fabrice Mpuela, Albert Fabrice Mpuela, vient de le dire. La décrispation politique, c'est quoi? C'est l'organisation des élections au plus tard décembre 2017. La décrispation politique, c'est quoi? C'est la préparation de l'alternance et la passation pacifique du pouvoir politique conformément à la Constitution.
En résumé, c'est l'application globale de l'accord du 31 décembre.
Du 31 décembre, sans faille. C'est ça, la décrispation. C'est-à-dire l'application de l'accord et l'application des mesures prises dans les résolutions. Et ici, je ne suis pas d'accord avec M. Crispin Goy. J'aimerais dire aussi que les prêtres salésiens de Don Bosco m'ont formé. Je suis un produit du collège Saint-François des Salles de Lubumbashi. Nous devons du respect aux prêtres. La résolution 2348 du Conseil de sécurité souligne « Le Conseil de sécurité continue d'appuyer, de soutenir la mission des bons offices des évêques. Elle n'est pas terminée. C'est mentionné dans les résolutions que l'épiscopat congolais doit accompagner la mise en œuvre de l'accord. L'épiscopat congolais doit veiller à ce que cet accord-là soit bien appliqué. Et ici, il est décevant de voir M. Crispin Goy nous dire que la mission des évêques est terminée. En fonction de quoi? La décrispation politique ne dépend pas du point de vue de la majorité présidentielle. La décrispation politique ne dépend pas des points de vue du rassemblement. Même des franges du rassemblement qui sont débauchées. Décrispation politique, c'est la conformation à l'accord de la Saint-Sylvestre et le respect intégral et sans faille de toutes les mesures contenues dans la résolution 2348.
Est-ce que l'honorable Crispin Goy n'aurait pas raison dans ce sens que on se rappelle que la CENCO elle-même avait annoncé au chef de l'État la fin de ses bons offices, n'est-ce pas?
Écoutez, la CENCO avait transmis ce rapport-là en son temps, voyant qu'il y avait des blocages. La CENCO n'a fait que transmettre un rapport pour pousser les acteurs politiques à se prendre en charge. C'est tout simplement cela. La CENCO n'a jamais dit qu'elle a mis fin à sa mission de bons offices en République démocratique du Congo. Jamais, elle n'a jamais dit. Elle n'a fait transmettre qu'un rapport pour dire, regardez, jusqu'à présent, regardez ce que nous, nous avons fait. Et je vais aborder maintenant la question de la relaxation des prisonniers politiques et autres prisonniers d'opinion. Mais M. Crispin Goy n'ignore pas qu'il y a un juge du tribunal de grande instance de Lubumbashi qui a dénoncé sur les médias internationaux, notamment sur TV5, avoir été forcé à administrer une condamnation à M. Moïse Katumbi en violation des lois de procédure pénale qui sont d'ordre public. Il le sait bien. Et Madame la juge ne se retrouve pas aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il s'est exilé. Il n'ignore pas. Alors, je ne comprends pas dans ce pays, en République démocratique du Congo, ceux qui ont commis des exactions et qui ont fricoté avec la rébellion et qui ont entraîné des millions de morts dans l'est de la République démocratique du Congo ont bénéficié d'une amnistie. C'est pas possible. Voter par des lois au Parlement, par M. Fabrice Mpoela qui est assis ici et par M. Crispin Goy. Eux ont voté l'amnistie. Mais je ne peux pas comprendre que pour amnistier trois opposants politiques afin de détendre l'atmosphère politique, c'est très grave. Et ici, j'aimerais souligner une chose. Le député Albert Fabrice Mpoela l'a dit ici que tous, ils ont la légitimité, ils tirent la légitimité de l'accord. J'aimerais dire ceci. Si l'accord avait été respecté intégralement jusqu'à présent, ils tireraient la légitimité de l'accord. Tels qu'ils sont ici, ils sont tous illégitimes.
Voilà.
Et non, Guimate, j'aimerais préciser. Dans le constitutionnalisme américain, on les appelle tous tels que vous les voyez ici, des lame duck. Ça veut dire en français des canards boiteux. Qui est-ce qu'on appelle canard boiteux, Guimaté? Je définis, dans le constitutionnalisme américain, on appelle canard boiteux toute personne occupant une fonction élective et qui continue à exercer sa charge au-delà du délai constitutionnel imparti, sans avoir été réélu. Regardez, si on ne respecte pas l'accord, on va continuer à gérer le pays avec des canards boiteux et on est en train de créer des situations où, répondant un jour à qui tout au l'un en toi, le professeur Vundao Etepamako, qui est aujourd'hui juge à la Cour constitutionnelle, répondant sous Mobutu, il disait ceci à Kitutu: nous sommes en train d'aller d'irrégularité en irrégularité, de violation en violation, et
merci.
Nous risquons de déboucher sur une impasse.
Maître Achille, on a compris. Honorable Crispin Goy, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, site qui vous.
Moi, c'est Olivier Manga qui combat depuis Bukavu, site qui vous. Je demande de l'épiscopat catholique congolais. Pose l'impatience des Congolais quant à ce qui est de la question concernant la décrypation politique. Cependant, force est de constater que l'application de celle-ci est soit sélective au bon vouloir de la mouvance présidentielle et faisant ainsi abstraction au cas emblématique dont celui de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle prochaine. Il est certain que les charges portées contre lui sont non seulement des mascarades, mais également grotesques. Monsieur Kabila, président de la République, doit faire preuve de la tolérance de la vérité en suivant la voie de la raison pour les retours triomphales et un homme libre du candidat président de la République, Moïse Katumbi Tshabe, y compris bien évidemment la libération des autres opposants arrêtés et la réouverture des chaînes fermées.
Honorable Crispin Goy.
Oui, je remercie le compatriote qui m'appelle de Bukavu. Mais avant que je ne puisse répondre, je voudrais un peu clarifier les choses. Ce que tout le monde doit comprendre, mes deux co-débatteurs ont fait des déclarations terribles. Quelles sont ces déclarations? Pour dire que les institutions en République démocratique du Congo dépendent de l'accord. Faux et archi-faux. Et je vous dis que cet accord n'a pas la légitimité populaire. Les institutions aujourd'hui tirent leur légitimité dans la Constitution. Puisque la Constitution dit, pour le mandat électif, les autres qui sont en place ne peuvent partir qu'à la remise et reprise avec les autres qui seront élus. Tel est le cas de député. Ça n'a rien à voir avec l'accord. D'abord, Fabrice est ici devant moi. Il a été là-bas. Qui l'avait mandaté? Personne ne l'a mandaté.
Quelle est la population qui l'a mandaté déjà pour aller signer l'accord? C'est un groupe de politiciens qui se sont retrouvés. Ils ont signé l'accord. Nous, les institutions sont là sur base
alors,
de
si,
la Constitution.
S'il faut répondre à l'auditeur de Bukavu.
La deuxième des choses, je vais clarifier un peu. La deuxième des choses, il faudrait se mettre à la place des victimes. Mais des co-débatteurs, qu'on vienne leur rafler leur maison, nous allons voir combien ils seront bons. Ils vont croiser les bras puisque c'est la directification politique. Qu'on vienne violer leurs filles. Qu'ils disent que voilà, très bien, violez nos filles, prenez nos maisons, puisque c'est la décrispation politique. Non, N-O-N. La justice doit faire son travail.
Alors,
la justice doit faire son travail, puisqu'ils ont toujours la coloration politique.
Vous n'avez pas tort en évoquant cet aspect des choses, mais lorsque les négociations se faisaient, apparemment cet aspect n'était pas pris en compte.
Quel aspect?
Le fait qu'il y a des personnes qui sont préjudiciées par certains actes.
Oui, mais par exemple celui de la maison. Il y a beaucoup de personnes préjudiciées par ces actes-là. Mais ça m'étonne quand même que je voie des Congolais qui ont des enfants, qui ont des maisons, qui puissent défendre des causes de ce genre-là. C'est quand même étonnant. Mais j'aimerais bien voir mes deux co-débatteurs confisquer leurs maisons, ou bien une façon de dire que eux, quand ils seront au pouvoir, ils vont confisquer le bien des paisibles citoyens, puisque c'est au nom de la décrispation politique. Ça, on ne peut pas accepter. Quel est cet homme responsable qui peut permettre à ce qu'on puisse confisquer le bien des uns et des autres, puisque c'est au nom de la décrispation politique? Non, la justice doit faire son travail. Pour parler de notre compatriote qui m'appelle de Bukavu, notre compatriote doit comprendre qu'il ne faut pas tout politiser. Il ne faut pas que l'homme politique se mette au-dessus de tout. Il ne faut pas que l'homme politique puisse être en train de faire des mafias, puisse en train de confisquer les maisons d'autrui, puisse commencer à vendre les biens d'autrui, et puisque c'est au nom de la décrépitation politique. Non. Ça, il faut arrêter ça. Sinon, le peuple congolais ne va pas accepter. Si tel est le cas, pour voir la volonté du peuple congolais, allons au référendum, posons cette question, s'il faut libérer tel individu ou pas.
Merci.
Et nous allons voir la réaction.
Honorable Poila, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Béni, au nord Kivu.
François, ça part depuis Béni. Comme la Senko disait qu'elle avait son club, mais le fait qu'elle commence à s'impliquer dans des affaires judiciaires des politiciens, nous craignons qu'elle perde sa neutralité, car elle a cité une personne à décrisper. Ça, à mon avis, c'est être juge et parti.
Oui, honorable Pouida.
Merci beaucoup. Je salue ces compatriotes qui nous posent la question depuis Béni, si j'ai bien entendu. Je pense que la Senko a eu une mission. Cette mission, c'est de mettre ensemble, c'est d'offrir de bons offices pour que les hommes politiques se mettent ensemble et résolvent les problèmes des crises de légitimité qui s'est posée et résolvent les problèmes du refus par la majorité kabyliste, la mouvance kabyliste, d'organiser des élections. Parce que nous devons le dire, c'est à dessein qu'ils ont refusé d'organiser des élections. Souvenez-vous qu'il y avait même déjà des dépôts de candidatures, mais c'est de manière délibérée qu'ils ont refusé. Mais j'aimerais revenir sur ce que l'honorable Ngoï venait de dire ici, parce que c'est quand même grave. Donc, il veut dire que les plus grands crimes qui existent dans cette République, ce sont ceux commis par les membres de l'opposition. Dans la majorité, ce sont des saints. On parle des Panama Papers, ce sont des saints, ils n'ont rien fait. On parle aujourd'hui du problème de passeport, c'est rien du tout. Cela, c'est conforme à la Constitution qu'on puisse voler, détourner l'argent de la République comme ça. Que le compte général du Trésor soit émietté, que la République puisse manquer d'avoir comme ça, qu'on puisse enterrer pratiquement 420 personnes dans un même trou, ça c'est rien. C'est être en train d'adorer la Sainte Vierge. Mais soyons sérieux. Comment on peut... Chers collègues, la justice élève une nation. Nous vous disons, j'ai la chance d'avoir en face de moi aussi un confrère avocat. Nous sommes des praticiens du droit. Nous poursuivons les criminels aussi devant les cours et tribunaux. Nous savons déceler le plus facilement du monde que tel procès, ça procède au fait d'un simple harcèlement. Mais ce sont des procès politiques. Devons-nous vous citer combien de membres de la majorité devraient être même poursuivis pour des crimes plus graves que ceux-là? Mais qui se pavane dans la rue aujourd'hui et se vertit à être des donneurs de leçons? Donc soyons sérieux, parlons des choses qui nous concernent. Les mesures de décrispation doivent être prises. Et c'est là que je réponds entre autres aussi à notre compatriote de Béni.
Qui pense que la CENCO devient juge et partie à la fois.
La CENCO n'est pas juge et partie. La CENCO poursuit sa mission en vertu de la résolution 2348. Et c'est très important. C'est clairement dit dans cet accord. On ne peut pas aujourd'hui dire que les membres de la mouvance kabyliste arrêtent de dire que non, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais pourquoi vous êtes partis appeler les hommes de Dieu pour venir vous aider à trouver des solutions? Soyons sérieux.
Merci, Maître Achille Kabongo. Il y a une question qui vient de Calémie pour vous.
Je m'appelle Pierre Kabwe. J'appelle depuis Kalemie, dans la province du Tanganyika. L'accord du 31 décembre 2016 n'a pas été appliqué dans son ensemble. Je me demande comment les mesures de crispation politique doivent être appliquées, surtout qu'il s'agit de figures emblématiques qui sont, à mon avis, des vrais opposants au régime actuel. Ne dit-on pas que si la prémisse est fausse, la conclusion est fausse?
Oui, Maître Achille Kabongo.
Merci beaucoup, Pierre Tabwe. Mon frère Pierre Tabwe, mais il réfléchit bien. Il a terminé avec un adage. Si la prémisse est fausse, la conclusion est fausse. Nous voulons dire ceci. J'aime bien raisonner. Et j'aime les gens qui raisonnent bien. Pierre Tabwe raisonne bien. Mais pour répondre à Pierre Tabwe, j'aimerais un peu lui rappeler l'histoire. Guématé, en République démocratique du Congo, il est malheureux de constater que nous sommes en train de retomber dans les expériences malheureuses du passé. Nous avons eu la Conférence nationale souveraine. Lorsque les résolutions de la Conférence nationale souveraine sont tombées sur la table du chef de l'État, en ce qui concernait la nomination du Premier ministre, nous avons vu à l'opposition Ussor et Alliés, une frange des Alliés à l'Ussor, l'Union sacrée de leur opposition radicale et Alliés, une frange s'est détachée. Et ça nous a entraîné dans quoi? Dans un blocage. Ça nous a amené à Palais des Marbres 1. Quand les accords du Palais des Marbres 1 sont tombés pour signature sur la table du chef de l'État, qu'est-ce qui est arrivé? Le président Mobutu est allé débaucher...
Donc, là, vous voulez dire que l'histoire se répète?
Se répète. Le président Mobutu est allé débaucher de l'opposition un premier ministre. C'est-à-dire, chaque fois en République démocratique du Congo, la frange de la composante qui doit présenter un candidat primaturable a toujours été escamotée. C'est-à-dire, Mobutu, durant toute la période de transition, n'a pas accordé à l'Ussor la capacité de lui désigner un primaturable, tout simplement pour écarter l'éventualité de nomination de Tshisekedi.
Regardez, aujourd'hui
nous assistons à quoi?
Vous voulez dire qu'au-delà des aspects judiciaires, n'est-ce pas, de la question, on peut aussi analyser cette question par rapport à ses aspects politiques?
À ses aspects politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Il y a une frange, une composante. À qui revient la prérogative de faire désigner le Premier ministre? Mais nous remarquons que on a fait éclater cette frange-là en plusieurs mouvements. Et qui est-ce qu'on choisit? L'on va choisir toujours les candidats primaturables dans les franges débauchées. C'est la même chose qui se répète. Et je rappelle ici, lorsque M. Kitutu Olé-Antoine avait invité le professeur Vundoa Tepemako, aujourd'hui juge à la Cour constitutionnelle, il lui avait dit: Monsieur Kitutu, nous sommes en train d'aller d'irrégularité en irrégularité, de violation en violation, nous allons déboucher sur une impasse. Et l'impasse, c'était quoi, à un certain moment? L'impasse, c'était que le régime Mobutu a été confronté à la rébellion de l'AFDL.
Vous l'avez déjà évoqué. Est-ce que les rapports de cette commission ad hoc pourraient-ils avoir un impact sur l'application des mesures de décrispation politique?
Oui, écoutez, c'est dans leur mission des bons offices qu'ils ont présenté ces trois personnalités pour pouvoir décrisper l'atmosphère politique.
Et vous pensez que ces rapports, le fait d'avoir été déposés, n'est-ce pas, pourraient impacter sur l'application de ces mesures de décrispation politique?
Écoutez, ce n'est pas que pour impacter. La résolution, les mesures de la résolution 2348 demandent aux autorités ou exige aux autorités congolaises d'appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre avec bonne foi. La bonne foi, c'est-à-dire lorsque les évêques ont présenté, il est fait appel
à la bonne foi des autorités gouvernementales de pouvoir appliquer.
Vous êtes avocat. Qu'est-ce qui peut être réaliste et efficace dans une démarche comme celle de la CENCO ? Se référer au chef de l'État ou à la justice ? Qu'est-ce qui est réaliste et efficace ?
Non, ce qui est réaliste est que en politique, on ne peut pas escompter 100% des succès guimatés. Il faut toujours savoir recourir à un compromis. Et lorsqu'on recourt à un compromis, on ne va plus. Nous ne sommes plus dans un domaine où nous devons recourir à la justice. Nous sommes dans un domaine où nous devons trouver des gentlemen's agreements. C'est-à-dire des accords entre gentilshommes, entre intellectuels, entre fils d'un même pays qui doivent s'entendre et faire préserver la paix. C'est ça l'esprit de la résolution.
Merci.
2348 du Conseil de sécurité nationale.
Honorable Crespin Ngoï, quel pourrait être l'impact de ces rapports de la commission ad hoc sur l'application des mesures des décrispations politiques?
D'abord, ce rapport a été confidentiel, selon la déclaration propre de prêtre, remis au chef de l'État.
Et à Moïse Katumbi?
Moïse Katumbi, on vient d'apprendre ça dernièrement. C'est, je crois, hier qu'on a...
Les évêques disent qu'ils ont remis ça à deux personnes, le chef de l'État et Moïse Katumbi.
Et on est surpris de voir que le rapport est dans la presse. C'est quand même un manque de respect envers le chef de l'État.
C'est le fait de qui on ne sait pas. Jusque-là, on ne sait pas qui est à la base de cette fuite-là.
Alors,
est-ce que
vous pensez
que ces rapports,
le
fait que ces rapports existent pourraient impacter sur l'application, n'est-ce pas, de ces mesures de décrispation politique?
L'accord du 31 décembre est en train d'être appliqué. Les dossiers,
dans sa globalité.
Dans sa globalité. Les dossiers de décrispation politique se trouvent aux mains du ministre de la Justice, qui est en train de le faire appliquer. Moi, je trouve que ce rapport n'a été là que pour forcer la porte ouverte. Et pourtant, les choses sont en train de se faire. Mais on n'a pas apprécié.
En conclusion,
on trouve ça.
En conclusion,
nous sommes dans un pays de droit où la justice doit jouer son rôle. Il faudrait que la CENCO laisse la justice jouer son rôle. La CENCO a déjà fait sa mission de bons offices. Il a déjà déposé son rapport. Il est grand temps qu'il aille s'occuper de l'Église. Et à ce moment-là, les peuples congolais peuvent évoluer librement vers les élections qui étaient la mission principale du dialogue du 31 décembre.
Merci, honorable Poula Sassérosse, pour votre conclusion. C'est quoi les mérites de ces rapports? Est-ce qu'ils pourraient impacter sur l'application des mesures de décrispation politique?
Au-delà même de ces rapports, nous voulons plutôt plaider pour la mise en œuvre de l'accord dans son ensemble. Et c'est ça qui doit être notre préoccupation à nous tous, les évêques, les membres de la CENCO, les membres de cette commission ad hoc, et tous les Congolais épris d'esprit de paix, y compris M. Kabila, pour sa propre paix. L'accord du 31 décembre a pour mérite d'interdire à quiconque de faire modifier la Constitution. Cet accord a pour mérite de dire noir sur blanc que les élections doivent être organisées au plus tard au mois de décembre 2017, donc c'est de l'année en cours. Cet accord précise clairement que pour rien au monde, M. Kabila peut se présenter à ces élections. Pour nous, c'est un grand acquis et cet accord doit être appliqué. En ce qui concerne les mesures de décrispation, nous les saluons pour tout le monde. Pour les cas emblématiques, bien sûr que nous aimerions que nos compagnons de lutte soient libres de tout mouvement, reviennent avec nous. Mais aussi les Franck Diongo, tous ceux dont nous avons eu à citer les noms et les cas, que ce soit ceux qui sont dans la prison de la Cassapa, que ce soit dont les cas avaient été amnistiés depuis très longtemps, que tous ces gens-là, que tous ces compatriotes soient libérés, que l'accord soit appliqué, parce que nous tenons, moi je n'ai plus de prestige de me dire député national, parce que nous sommes hors mandat.
Merci.
Mais ce qui va nous crédibiliser, c'est la signature de cet accord.
Merci.
Pour que les autres ne puissent plus attirer.
Maître Achille Kobongo, votre conclusion.
Mon conclusion, je dirais ceci. Écoutez, quand les prêtres demandent cette décrispation, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y a eu une grogne sourde au sein de la population. Les dissensions qui sont nées de la mauvaise application de l'accord ont bloqué le bon fonctionnement des institutions. Regardez, un rapport de la Banque mondiale indique que 70% des ménages à Kinshasa vivent sous le seuil de la pauvreté.
Merci, merci.
Il y a eu une grogne. Les autorités doivent en tenir compte.
On a
si
compris,
ils n'en tiennent pas compte, on
merci,
risque de déboucher
fin,
sur un
la
chaos.
Fin de cette émission. Merci à Didionne Nyangasa qui était la technique. Merci à Kelly Nkouté, Berry Franklin Njaka, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Et devant ces micros, Guy Mathieu. Bon, c'est le programme sur Radio Capi.